Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza, Quentin Duchemin, Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 et cet après-midi, eh bien, nous allons donner la parole à des étudiants et des étudiantes de l'UTC pour présenter les travaux qu'ils ont menés dans le cadre du cours WE1. Alors WE1, c'est un cours qui aborde les technologies du web sous plusieurs angles, à la fois sous les angles théoriques, pratiques, donc savoir simplement réaliser un site web, savoir l'héberger, savoir comment fonctionne Internet, etc. Et culturel, donc sur tous les aspects qui concernent l'usage du numérique dans notre société, l'éthique, l'économie et tant d'autres. Alors les étudiantes et les étudiants ont travaillé ce semestre en groupe sur un sujet qu'ils ont mis en ligne sur un site web, donc notamment à travers la réalisation de fiches de lecture, d'articles, d'interviews. Et pour finaliser ce travail, eh bien, ils présentent aujourd'hui une synthèse de leurs travaux sur Graphite. Bonjour à tous les trois.
Alors, bonjour.
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 Donc vous avez travaillé ce semestre sur donc le sujet Silicon Valley entre contre-culture, communauté et mythe. En deux mots, l'idée c'était d'essayer de faire un lien entre la période hippie des années 60 aux États-Unis qui est marquée par l'émergence d'une contre-culture et puis sa réappropriation par les géants du numérique. Du coup, Amaury Walker, si tu as travaillé... Je te laisserai expliquer un peu ce que tu as fait, mais salut à toi, Simon Autard et Louis Levasseur.
Bonjour. Donc, on va aborder la question quelles relations les communautés contre-culturelles de la Silicon Valley entretiennent-elles avec l'art et la société ? Donc, dans un premier temps, on va parler de la contre-culture et l'usage de l'art. Au cours des années 1960, aux États-Unis, deux branches de la contre-culture se forment. L'une est la branche politique, branche qui a amené la création de certains mouvements de gauche. L'autre branche était apolitique et reposait principalement sur l'idée de changement de mode de vie pour changer le monde. Le mouvement de contre-culture est accompagné de l'idée de communauté. C'est ce terme de communauté qui est reprise par les GAFAM et dans l'imaginaire de la Silicon Valley. D'après la définition du Petit Robert, une communauté est un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens, des intérêts communs. Par exemple, quand Facebook parle de communauté et d'amitié, il n'est question ni de communauté, ni d'amitié. Il est question de dépendance. Et en fait, le terme qu'ils utilisent de plus en plus est plutôt l'engagement. Les gens s'engagent les uns vis-à-vis des autres, et c'est cet engagement qui sert de modèle économique. Pour les utilisateurs, c'est à travers les applications et la mise en relation avec d'autres utilisateurs. Par exemple, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, etc. Pour les employés, c'est une volonté d'être un ensemble de personnes qui rend le monde meilleur, ou une volonté d'être Facebook. Par ailleurs, comment peut-on rassembler tous les utilisateurs qui ne parlent pas la même langue ? N'ont pas les mêmes pratiques culturelles ou politiques. Cette tâche n'est pas possible et donc le terme de communauté revient à de l'idéologie plutôt qu'à de la sociologie. En reprenant l'idée de la contre-culture apolitique, c'est en se changeant soi-même qu'on change le monde. Les calculs sont faits sur des réseaux d'individus pour pouvoir les cibler, surveiller, mais ne prend pas en compte le collectif. Tout ce qui est collectif n'a pas de place, c'est une émergence de l'individuel. Tout de suite, nous allons écouter un extrait de la chanson Imagine de John Lennon, sortie en 1971 pour mettre en avant les idéaux de l'époque.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries.
Après avoir écouté ce court extrait, on peut se demander quelle est la différence entre la Silicon Valley et les autres entreprises. Pour mon propos, j'ai m'appuyé sur le livre de Fred Turner, « L'usage de l'art » sorti en 2018, dont nous avons fait une fiche de lecture. Ce livre parle de l'usage de l'art et dresse un cas d'étude de Facebook et du lien avec le mouvement de contre-culture. Son auteur fait un historique de l'utilisation de l'art par les entreprises au fil du temps. Je cite « Jusqu'au milieu du XXe siècle, les entreprises employaient des artistes principalement pour le design de leurs produits et l'élaboration des publicités. Fin de citation. À partir des années 1930, les grandes entreprises de la finance ont commencé à collectionner des œuvres d'art ainsi que de parrainer des expositions. Avec comme grand essor les années 1960. Par exemple, en 1959, la Chase Manhattan Bank a initié la constitution d'une collection muséale qui compte désormais plus de 30 000 œuvres. Le but ainsi est de montrer son prestige ainsi qu'à donner une image progressiste de l'entreprise. Par ailleurs, les employés seraient ainsi plus créatifs. Cela mènera à des collaborations entre ingénieurs et artistes. Dans les années 1990, apparaît la théorie managériale de l'entreprise libérée. Cela correspond à l'arrivée des méthodes de management et de la fin de la forte hiérarchie. Le but final de cette démarche est une transformation de l'entreprise en espace public. L'art est utilisé dans la Silicon Valley en tant qu'outil interne pour changer la perception des employés. Il sert à défendre la vision et les valeurs de l'entreprise en interne, à savoir un monde sans hiérarchie et sans contrat, pour le bénéfice individuel, mais surtout pour celui de l'entreprise. Cela fait partie des idées de la contre-culture. On pourrait parler d'art de propagande, car il était difficile jusqu'en 2018 d'accéder à des images de ses œuvres chez Facebook. Aujourd'hui, Facebook a ouvert une partie de son art au grand public via leur site, mais il n'en reste pas moins un outil de management.
Merci Amaury. Avant de passer à la prochaine partie, une petite question. Moi, je pense que dans l'imaginaire collectif de la contre-culture américaine des années 60, il y a un peu cette idée de retour à la terre, communauté rurale, etc. Comment expliquer un peu cette acrobatie entre l'envie d'en finir avec la bureaucratie américaine d'un côté et en fait le recours au numérique qui nécessite justement des industries assez massives, assez verticales, notamment pour la partie matérielle?
Justement, ils essayent d'avoir cet esprit de communauté pour casser la hiérarchie et montrer que les personnes sont ensemble. Donc en cassant la hiérarchie, on casse aussi l'histoire de contrat. Tout le monde représente son entreprise de la Silicon Valley. Donc en tant qu'employé, par exemple, je suis Facebook. Et en tant que je fais quelque chose qui me plaît au quotidien, je fais partie de la communauté, je m'engage auprès d'eux. Et à ce moment-là, je n'ai aucune raison de me plaindre ou bien de me syndiquer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de syndicat, notamment là-bas, puisque je suis engagé, mon travail et ma création et mon art, et tout est fait à ma disposition. Donc c'est au bénéfice de l'entreprise. Donc pour les dirigeants, tout le monde, tous les employés sont proactifs et ont un énorme engagement. Ils n'ont aucune raison de demander plus de salaire ou plus d'intérêt personnel. Donc voilà, c'est pour le bénéfice individuel en tant qu'employé, on peut le voir positivement, mais si on sort un peu de cette bulle, on peut voir que c'est principalement les dirigeants qui sont gagnants pour faire grandir l'entreprise.
Ok, merci beaucoup. Et puis on reparlera peut-être un petit peu des impensés en termes d'inégalité dans la Silicon Valley avec ta partie, Louis. Simon, pardon. et du coup, on enchaîne avec Louis sur l'usage de l'art dans la Silicon Valley.
Alors bonjour à tous. Donc pour ma part, je vais vous parler de l'art dans la Silicon Valley et particulièrement donc en prenant le cas de Facebook et en m'appuyant sur les travaux que nous avons effectués préalablement dans le cadre de notre projet et ainsi que la vidéo The Uses of Art in Silicon Valley for Better or for Worse with Fred Turner de la chaîne YouTube The Tank. Alors l'art dans la Silicon Valley débute réellement en 2004 avec l'arrivée de Mark Zuckerberg chez Facebook. Il a commencé à acheter notamment des peintures murales pour décorer les murs de l'entreprise. Et ensuite, on a vu l'émergence de deux entités de production d'art chez Facebook. On a d'abord l'Analog Research Lab. L'idée vient de deux employés en 2010, Ben Barry et Yvette Katigbag, qui ont commencé à afficher des fresques et des slogans sur les murs de l'entreprise. Le phénomène a pris de l'ampleur et est devenu en 2012 une entité à part entière de Facebook. Cette initiative entre d'ailleurs en corrélation avec l'envie de Facebook d'aplatir la hiérarchie. En effet, cette idée que les propositions viennent directement des employés permet un certain aplatissement de la hiérarchie parce que les idées ne viennent plus d'en haut, entre guillemets. C'est cet investissement dans l'entreprise en fait qui est mis en avant. Et le but du lab est que chaque employé puisse se considérer en tant qu'artiste de par leur création et de par leur innovation dans leur travail. Les employés peuvent donc afficher des slogans et affiches en tout genre afin de s'exprimer librement. L'idée générale étant de favoriser l'investissement personnel de l'employé dans l'entreprise. Ces slogans deviennent des sources d'inspiration et permettent aussi à l'employé de s'approprier le lieu de travail. On a donc en plus de cet aplatissement de la hiérarchie, un allègement de la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, car l'employé se sent bien dans son entreprise. On observe ce type d'idée dans toutes les startups en général, hein, même sans l'art, en installant des baby-foot, des billards, des salles de repos, etc. En fait, on privilégie le bien-être de l'employé au profit de sa créativité, mais aussi de sa productivité. Tout cet investissement et cette intégration dans la vie de l'entreprise fait que les employés n'ont plus tellement de raisons, comme le disait Amaury tout à l'heure, de créer de syndicats. Donc c'est pour ça en fait que l'analogue, c'est ça en fait l'analogue Research Lab. Je vous parlerai dans la deuxième partie de l'autre entité d'art chez Facebook, juste après cet extrait d'une interview de Fred Turner sur l'art dans les entreprises hors de la Silicon Valley.
And what about I would say not Silicon Valley technical companies such as from Seattle, I mean Microsoft or Amazon. Have you seen any action in the art field or are they using
zero.
It?
Zero. Zero. It's zero. It's so interesting. I sometimes think that Amazon is in fact a cult of ants or bees. You know, as far as I can tell, Amazon is building an insect world in which everyone moves precisely together, coordinated by invisible technologies. You know, Microsoft at this point is a very large, thoughtful, strange company. Microsoft is interesting because I haven't seen art there, but I have seen a very strong commitment to social research. And this is something that I think might be a little bit different than other firms. Microsoft has research organizations scattered across the United States and the globe devoted to understanding the social impact of what they do. And that, I think, is a little bit different.
Donc avant d'écouter cet extrait d'interview, je vous avais parlé de l'analogue Research Lab. Et donc il existe une deuxième entité de production d'art chez Facebook qui s'appelle l'Artist in Residence. Donc contrairement au Lab, cette entité est constituée d'artistes qui viennent de l'extérieur et de manière temporaire. Pour Facebook, les œuvres sont nouvelles et vont être peintes directement dans l'entreprise et sur les murs de l'entreprise, le but principal étant de mettre en avant l'idée d'expression de soi. C'est pour cette raison que les œuvres commandées évitent d'ailleurs toute évocation du monde de l'industrie ou des pratiques de consommation en général. Les artistes étant présents sur place, il est aussi possible, voire encouragé pour les employés, de discuter avec eux. Donc c'est toujours cette idée d'expression de soi. On a donc ces deux entités, en fait, donc l'Analog Research Lab et l'Artist in Residence, qui produisent de l'art. Et dans les deux cas, l'art produit pousse à l'expression de soi, la communication, et en général, en fait, reprend la culture des années 60. Dans le cas de l'Analog Research Lab, des affiches reprennent des slogans et des mouvements sociaux des années 60, comme « Silence equals death » ou encore « We shall overcome ». Il y a alors une contradiction, puisque le cœur de métier de Facebook est de monétiser l'expression. De plus, dans une de ses interviews, extrait de la même interview dont vous avez entendu un extrait, Fred Turner nous raconte une de ses expériences personnelles. Quand il a visité Facebook, il devait signer un accord stipulant qu'il ne divulguerait pas ce qu'il voyait. Mais au-dessus des tablettes sur lesquelles il devait signer cet accord, était affiché un poster sur lequel était écrit « Be open ». On a donc encore une fois une contradiction entre ce qui est affiché par les employés et ce qui est réellement pensé par l'entreprise. Et dans le cas des artistes in residency, il y a des œuvres comme celle qu'a fait le tisserand Travis Meinhof en été 2016, qui a réalisé une œuvre au milieu du campus, le but étant de transformer le lieu de travail en sorte de place publique sur laquelle les employés pouvaient échanger et se divertir par l'art. Tout cela en oubliant en quelque sorte qu'ils sont en entreprise. En effet, il ne faut pas oublier que les artistes se produisent dans l'enceinte de Facebook et que les artistes et les œuvres produites sont sélectionnées par Facebook. Donc on se rend compte encore une fois qu'il y a une contradiction et qu'il existe encore cette hiérarchie malgré le fait qu'on veuille l'aplatir et que la liberté d'expression cette fois-ci des artistes est tout aussi contrôlée que celle des employés. On comprend en fait donc que l'art joue un rôle important dans les entreprises de la Silicon Valley et que cet art défend la liberté d'expression, l'aplatissement de la hiérarchie mais aussi l'égalité des classes, mais on se rend compte en fait que cela n'est pas forcément vrai.
Merci beaucoup, Louis. Et du coup, je me demandais, est-ce que au-delà des slogans qui reprennent les positions anti-autoritaires des années 60 aux États-Unis, qui sont du coup de fait assez politiques, est-ce qu'il y a, à ta connaissance, certaines œuvres d'art chez Facebook qui prennent position plutôt sur des faits d'actualité et de politique moderne qui s'incarnent un peu, pas forcément dans des combats industriels, mais donc sur des choses plus concrètes?
À ma connaissance, non, mais il doit sûrement y en avoir. Hein. Voilà, toujours dans cette idée en fait de casser un peu les codes de la culture moderne. Donc forcément, ça doit reprendre des idées qu'on a aujourd'hui de la politique et pour essayer de les contredire, toujours dans cette idée en fait de culture hippie des années 60. Hein. C'est toujours dans le prolongement. Donc ça doit se faire, pas à ma connaissance, mais voilà, oui, je pense qu'effectivement, il doit y en avoir.
Est-ce que, à ta connaissance, ces idées artistiques, un peu à supposément à contre-courant, elles s'incarnent aussi dans la façon de travailler des employés, dans la manière dont ils créent les produits
Non, justement, bien au contraire. En fait, il y a cette contradiction entre ce que les employés vont afficher, hein, donc cette histoire d'être ouvert. Ils vont tout le temps afficher, voilà, il faut être productif, tout ça. Mais c'est en contradiction avec ce qu'ils font en fait dans l'entreprise, justement. Ils vont afficher d'ailleurs en fait des images, enfin des icônes de la contre-culture des années 60, hein, des images très, très communalistes, alors qu'en fait, ils sont dans un modèle totalement capitaliste et qu'ils privilégient la production alors qu'ils se disent, en fait, dans leurs slogans et dans leurs affiches, totalement contre.
Merci beaucoup. On laisse un peu de temps à la fin pour les questions des étudiants et des étudiantes. N'hésitez pas à réagir sur Mattermost. Et on va passer pour la dernière intervention à toi, Simon, qui va nous parler notamment des inégalités réelles, concrètes, dans les entreprises de la Silicon Valley.
Tout à fait. Donc je vais parler du coup de la marginalisation et des inégalités dans la communauté de la Silicon Valley, en commençant par l'ignorance du contexte social qu'on y retrouve. Donc, comme je l'ai dit, on retrouve une certaine ignorance de ce contexte social dans les communautés de la Silicon Valley. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, les créateurs de ces communautés sont des gens qui ont une volonté de vivre en marge, loin des industries de l'époque ou de l'État, dans le but de vivre différemment. Mais ces personnes ne se questionnent pas sur leur situation financière ou leur statut social. Ils ne se rendent ainsi pas compte que c'est leur richesse qui leur permettait de créer ces communautés, ni qu'ils créaient ces communautés au détriment d'une population plus pauvre dont ils achetaient des terres. On a par ailleurs une forte volonté de vouloir changer le monde, entre guillemets, d'une manière qui s'applique au modèle de richesse de San Francisco et uniquement à ça. On n'a ainsi pas l'idée de changer les choses pour des populations les plus démunies ou des pays en voie de développement. Ça témoigne d'un grand manque de réflexion sur la question de la richesse, premièrement parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de leur propre richesse, et qu'ils ne se rendent pas non plus compte que ce qui est bon pour eux est bon pour les populations les plus modestes. Les communautés de la Silicon Valley, par exemple, sont construites grâce aux richesses personnelles de leurs membres, en achetant des terrains d'individus plus pauvres dans le Nevada. Et cette relation étrange à la richesse est toujours visible de nos jours. Les GAFAM, par exemple, et d'autres entreprises de la région, cherchent à externaliser les tâches qui seraient vues comme non nobles, entre guillemets. Et, par exemple, les tâches d'entretien du matériel ou des tâches de nettoyage sont, par exemple, laissées à des externes ou des sous-traitants. On peut également faire un parallèle avec des démocraties qu'on a pu voir par le passé, notamment les démocraties antiques, plus particulièrement la démocratie athénienne, qui fonctionnait que par la présence d'esclaves. On va maintenant passer à un petit interlude musical, où on va écouter une interview d'Emily Cheng au sujet de son livre Brotopia.
The industry was so desperate for new talent that they hired two psychologists to develop a personality test to identify good programmers. And they decided that good programmers, quote, don't like people, which is interesting. There's no evidence to suggest that people who don't like people are better at computers than anybody else. There's also no evidence to suggest that men are better at computers than women, but if you look for people who don't like people, you'll hire far more men than women. That's what the research tells us. And these personality tests were widely influential, and they were used by tech companies for decades. We're talking about companies as big as IBM. And it perpetuated and solidified this idea of the antisocial, mostly white male nerd stereotype that has existed for decades when it comes to engineers, entrepreneurs, they're looking for people who look like Mark Zuckerberg, and executives. And, you know, unfortunately, that has shut out more than half the population.
Donc, on va maintenant parler du manque de diversité qu'on trouve dans la Silicon Valley. Cette ignorance du contexte social dont on a parlé précédemment, elle est visible à travers les réflexions sur la richesse, dont on a déjà parlé, mais également sur la réflexion sur les minorités, plus particulièrement sur les femmes et leur place dans la société. C'est par ailleurs ce dont parlait l'interview avec la journaliste Emily Cheng, que vous venez d'écouter à l'instant. Au final, la Silicon Valley, c'est avant tout un boys club dans ses comportements et sa manière de voir le monde. C'est ce que montre Emily Cheng dans son livre Brotopia, qui illustre la décrédibilisation des femmes dans ces communautés. Ces mêmes femmes doivent accepter des conditions qui sont imposées par les hommes des communautés de la Silicon Valley. Emily Cheng parle par exemple des soirées entre hommes où les femmes sont totalement déconsidérées, des soirées où on trouve parfois sexe et drogue, et des soirées sans aucun respect pour les femmes présentes ou pour leur image. Et cette place minoritaire s'applique également aux personnes de couleur, notamment dans les entreprises de la région. On a 3% d'employés afro-américains, également 3% d'employés latino-américains, et très peu d'entre eux ont des postes de direction ou même des postes de manager. La médiane des femmes employées par les entreprises est quant à elle de 15%, et elles ont souvent des postes de manager, mais pas des postes de dirigeant ou des postes devant des forces compétences techniques. Et les femmes afro-américaines représentent à peine 1% des employés et ont beaucoup de difficultés à entrer dans ce monde. elles doivent soit avoir des contrats des contacts avec des entreprises ou alors redoubler d'efforts. Et dans les plus petites entreprises de la Silicon Valley, où certaines catégories de la population ne sont même pas représentées du tout, à cause du nombre d'employés qui est réduit comparé aux grandes entreprises, vu qu'il y a moins de places disponibles en général, ça implique également d'avoir moins de places disponibles pour les minorités. A l'inverse, 80% des dirigeants exécutifs de ces entreprises sont des hommes blancs. Je trouve que ces statistiques illustrent bien le problème de la Silicon Valley quand on parle des minorités. La situation pour les populations marginalisées s'améliore petit à petit, notamment à l'aide de tentatives d'inclusion et de quotas d'embauche, mais ça reste tout de même assez lent. Il reste juste à voir du coup ce que ça va donner dans le futur.
Merci beaucoup, Simon. La question que je me posais, mais tu as un petit peu répondu à la fin, c'est que bon, là, on voit un petit peu comme ce que vous aviez, Amaury et Louis, présenté, un décalage entre les valeurs d'inclusion qui sont défendues et ce qui se passe réellement, un petit peu donc même esprit communauté versus capitalisme. Mais est-ce que, qu'en est-il des politiques spécifiquement mises en place chez les entreprises de la Silicon Valley pour favoriser la diversité? Et est-ce que ces politiques elles-mêmes, si elles existent, elles sont empreintes de biais justement du fait qu'elles soient mises en place par des populations privilégiées, ou est-ce que sincèrement elles essayent de faire changer les choses à ta connaissance?
À ma connaissance, je vais commencer par revenir sur ces politiques. Donc comme je l'ai dit, c'était des politiques qui sont des quotas d'embauche et tentatives d'inclusion. Je pense qu'il y a une partie de ces politiques qui sont vraiment d'un effort personnel et altruiste de ces communautés, à la fois peut-être parce qu'il y a des membres avec des opinions personnelles qui tendent vers cela, et d'autres pour un principe d'image, étant donné que les communautés de la Silicon Valley, notamment les GAFAM, essayent petit à petit de faire en sorte que leur image colle à leur discours. Mais après, à part cela, c'est vrai que je pense que ces tentatives sont quand même teintées également du contexte historique de la Silicon Valley, car ce sont des tentatives qui paraissent un petit peu, on va dire, un petit peu automatisées, un petit peu mécanisées, dans le sens où ces tentatives d'inclusion et des quotas qui paraissent très mathématiques et qui, en tout cas, ne donnent pas une image extrêmement altruiste, en tout cas, à leur manière de résoudre le problème.
Ok, de ton point de vue, il n'y a pas d'incarnation de... Ouais, Amaury ?
Justement, pour ajouter sur ces méthodes, l'article qu'on avait cité mettait en avant les différentes méthodes qu'ils avaient mis dans la Silicon Valley pour augmenter l'inclusion des minorités. Et ils en avaient conclu que ça avait plus fonctionné au niveau des grandes entreprises de la Silicon Valley, où il y avait plus d'inclusion, mais par contre sur toutes les petites entreprises et les startups, ça n'avait absolument pas fonctionné. Et que c'était en fait une sorte de processus c'était un peu une sorte de torrent où ça allait petit à petit. C'est-à-dire que s'ils arrivaient à inclure des femmes dans des postes de manager, bah, elles avaient souvent tendance à plus embaucher des personnes provenant de minorités. Et du coup, s'il y avait plus de personnes de minorité, ça allait ainsi de suite. Mais si jamais, dès le départ, ça ne fonctionne pas du tout, il n'y a aucune porte d'entrée pour n'importe qui venant d'une minorité.
Ok, merci beaucoup. Je me rends compte que j'ai volé une question à Aïssen. Je m'en excuse. Et on a une autre question d'Augustin qui demande si, comme vous avez pas mal mentionné le cas de Facebook, est-ce qu'il y a d'autres exemples que Facebook vis-à-vis de ces contradictions dont vous avez parlé, par exemple parmi d'autres GAFAM ou d'autres entreprises du numérique ?
Ouais, alors on a le cas de Google, mais juste avant de répondre à cette question, je reviens sur ma partie en fait, où Fred Turner disait que les GAFAM qui ne sont pas dans la Silicon Valley en fait, n'ont pas du tout de rapport à l'art, et donc en fait elles ne sont pas forcément concernées par cette question. Mais en tout cas pour le cas de Google, qui a le festival Burning Man, on retrouve encore une fois cette idée en fait... De contradiction, parce que les valeurs du festival Burning Man pardon, sont des valeurs très communautales, encore une fois, qui reprennent les valeurs des années 60 et des communautés hippies. Et ce que disait Fred Turner dans une autre de ses interviews, que vous pouvez retrouver sur YouTube, il me semble, sur le profil de CF Édition, qui disait qu'en fait, dans le festival Burning Man, on a de plus en plus des personnes qui viennent juste parce que c'est le festival Burning Man, mais pas pour ses valeurs, et qui viennent en fait sans respecter les valeurs du festival Burning Man, par exemple en venant en avion, et voilà, sans respecter en fait tout simplement tout ce qui a été transmis par les communautés hippies des années 60. Donc oui, en fait, on retrouve effectivement ces contradictions dans beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley.
Merci beaucoup. Est-ce que Stéphane, il y a une question qui te vient ?
Non, mais tu peux conclure quand parce que tu n'as même pas introduit. Donc tu peux
continuer. Ah oui, c'est vrai. J'avais un intrus à côté de moi qui n'a pas de micro. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous trois pour votre présentation et votre travail. C'était
merci.
Vraiment très intéressant. Vous pouvez réécouter les interventions des étudiants de WE1 en podcast sur graphite.net et ensuite ce sera sur l'instance PeerTube aperi.tube sur la chaîne Upload EPLOAD. Si vous êtes curieux ou curieuse de ce qu'on apprend en WE1, eh bien venez faire un tour sur le site librecours.net pour retrouver tous les supports de cours. Et puis on va enchaîner d'ici une petite quinzaine de minutes avec une autre émission, cette fois-ci sur les algorithmes de recommandation et leur éthique. Merci encore à tous les trois pour votre travail, merci à Graphite pour l'accueil de ce format d'émission et bonne fin de journée à toutes et à tous.
Bonne fin de journée.
Bonne journée.
Bonne journée.